Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Cette émission, l'Afrique dans tous ses états, est une seconde partie. Une seconde partie d'une première, dans laquelle Marie-Claude Siakeza, que je salue, bonjour Marie-Claude.
Bonjour Kylène.
A invité Monsieur Jeffrey Ngomo. Bonjour Jeffrey.
Bonjour et merci encore de m'avoir invité.
Plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors Marie-Claude, votre invité, vraiment, c'est vraiment confié, on peut presque dire ça, hein, confié sur sa généalogie, c'est confié auprès de vous, c'est confié aussi sur ses compétences, mais aussi sur son attirance, ses prédilections pour le panafricanisme. Et nous n'avons pas encore parlé de la bande dessinée et du site BD et Caen.
Voilà.
Et voilà. Alors, il va falloir y arriver. Hein.
Quand il nous a cité sa lignée qui remonte au XIVe siècle, on s'est bien douté qu'il y avait quand même des choses à faire à ce niveau.
Ah, mais ça, on n'a aucun doute.
Voilà. Et quand il m'a appris donc qu'il investissait beaucoup le domaine donc des contes et des légendes, quand on sait que nous sommes et des mythes, je dis que nous sommes issus tous de mythes. Hein, voilà.
Oui. J'oubliais qu'il avait aussi abordé Jeffrey Ngomo. Tout la spiritualité du continent africain, globalement, voilà. Mais ça c'est vite dit, il faudra qu'il revienne nous en parler une autre fois.
Hein. Voilà, on le fera revenir, ouais, exactement. Alors donc il a un projet à partir de ce dont on vient de parler, et j'aimerais bien donc qu'il nous explique, ça s'appelle « Meledium Vet ». Alors là-dessus, Meledium Vet, il y a plein de choses et j'aimerais que Jeff nous fasse un petit peu nous analyse un petit peu tout ça, nous décortique ça et nous explique qu'est-ce qu'il a mis là-dedans et dans son projet donc.
Merci beaucoup Marie-Claude et Guylaine. Alors d'abord le constat. Le constat c'est des jeunes Africains et même des Afro-descendants qui sont coupés de leur culture, qui sont coupés de leur langue. Or la langue véhicule la culture. La langue véhicule les valeurs. Et ces valeurs se trouvent dans les proverbes, ces valeurs se trouvent dans les mythes, ces valeurs se trouvent dans les légendes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constaté que si nous voulons remonter justement ces valeurs africaines auprès donc des héritiers et qui, d'une certaine manière, ont perdu cet héritage, si nous voulons le faire, comment procéder de la manière qui soit la plus efficace possible? Eh bien, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place ce projet. Nous appelons le projet Millennium Vet. Alors, Millennium, c'est un mot, je crois, latin.
Oui, c'est latin.
Qui veut dire millénaire. Et Vet, c'est un mot écan.
Voilà.
Vet vient du verbe abut. Abut veut dire monter. Et donc, Vet, c'est tout ce qui élève l'homme. Lorsque vous donnez la nourriture à votre enfant, eh bien, vous allez l'élever physiquement. Il va partir de nourrisson à homme adulte, aux épaules carrées comme les miennes en ce moment. Hein? Lorsque vous élevez votre enfant, vous l'instruisez par la culture à la maison, l'éducation. Lorsque vous élevez votre enfant, vous l'instruisez par l'instruction à l'école. Chez nous, c'était par les rites initiatiques de passage. Et lorsque vous élevez votre enfant, lorsqu'il devient adulte, vous élevez sa pensée spirituelle. Il faut qu'il accède maintenant à l'inaccessible, à Dieu. Et donc, nous voulons élever l'homme. Et quand on dit l'homme, c'est l'homme au sens impersonnel, c'est-à-dire l'homme et la femme. Nous voulons que l'homme accède à sa partie divine. Et pour le faire, nous avons voulu bâtir un projet qui, en fait, se présente sur quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier est le pilier communautaire. C'est un projet qui s'adresse à la communauté kamite, c'est vrai, mais qui peut intéresser toutes les autres kamites, communautés. Communauté kamite, c'est ce qu'on appelle Afrique. Hein? Mais le nom qu'on se serait donné nous-mêmes, c'est Kama. Kama, c'est ce qui est noir, la terre noire. Donc nous sommes les Kamites, nous sommes les Noirs. Donc ces valeurs s'adressent d'abord à la communauté Kamite ou alors à toute personne qui se sent attirée, qui se sent attachée, qui se sent proche de ces valeurs africaines, de ces valeurs Kamite. Parce qu'il est important que nous ressuscitons cet héritage de qualité qui a été enfui, qui a été dévasté. Et comment le faire? Mais quand nous avons accédé à l'information à travers donc les différentes recherches que nous avons menées par une quête identitaire, eh bien nous nous sommes dit ces informations elles ont un caractère culturel fondamental. Donc il nous faut absolument maintenant les transmettre aux nouvelles générations. Mais par quel canal? Et bien, nous avons dressé une passerelle artistique. Donc le projet, premier pilier, la communauté. Deuxième pilier, le substrat culturel. Troisième pilier, l'art. C'est avec l'art que nous allons essayer de toucher les plus jeunes. Un homme qui a 40 ans, qui a 51 ans, comme moi en ce moment, est déjà formaté. Il a déjà ses idées et généralement, il ne changera plus. Même si on lui présente une bande dessinée avec des valeurs culturelles, il ne va pas forcément y adhérer. Mais un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans et qui commence à apprendre des éléments culturels à travers les images, cet enfant, on peut le formater. Et il sera une personne différente quand l'enfant sera grand, quand il sera adulte. Il va se rendre compte que l'information civilisationnelle qu'on avait cachée dans l'image, eh bien, il la comprendra mieux quand il sera grand. Donc, les proverbes, les contes, les mythes, les légendes que nous avons récupérés auprès des sages africains, que nous avons traduits en français ou en anglais, en espagnol, demain en mandarin, eh bien, ces différents éléments, nous les avons traduits, nous les avons scénarisés, nous les avons illustrés. Et l'enfant, selon son âge, ça peut être un conte pour certains, ça peut être un mythe pour d'autres, ça peut être un récit plus historique. Et bien ces enfants, quand ils accèdent à cette information imagée, au départ, c'est la couleur, c'est le dessin qui les intéresse. Mais en fait, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais de manière inconsciente, ils vont baigner dans un univers qui sera africain, avec des valeurs africaines. Le totémisme, le rapport que nous, Africains, nous entretenons avec les animaux. Nous avons une parenté biologique avec les animaux. Et donc, l'enfant va apprendre à respecter les animaux. C'est important. Le vitalisme, la vie que nous voyons dans les êtres, que ce soit des plantes ou bien, par exemple, les minéraux, les rivières, les montagnes, eh bien, l'enfant va apprendre à respecter aussi ces aspects. Donc, rien que cette culture, nous faisons déjà un écologiste en herbe. Voilà, c'est très important cela. Et donc, ces différentes valeurs vont se retrouver dans l'image. Au début, l'enfant ne comprend pas. Mais quand il aura par exemple 15 ans ou bien 20 ans et qu'il va relire la bande dessinée, mais il va se rendre compte que tiens, mais c'était la valeur dans laquelle j'ai baigné, maintenant je la comprends mieux. Mais c'est cela, la partie artistique. Et enfin, le dernier pilier, c'est la partie numérique. Nous avons voulu toucher le monde entier. Et aujourd'hui avec Internet, donc via le digital, nous pouvons toucher le monde entier. Et nous avons donc mis un site en place. Ce site, si vous me permettez, je donne donc son adresse URL.
Tout à fait.
C'est www.labdecan.com. Labdecan, c'est labdecan.com. Donc, toute personne qui souhaite accéder donc à ce site n'a qu'à taper donc cette adresse et il va tomber sur un site aux couleurs chaudes et il pourra déjà voir donc les différentes bandes dessinées que nous avons réussi à réaliser depuis maintenant 2009. Donc, nous sommes sur ce projet depuis pratiquement 9 ans. Nous pensons que le projet est vraiment arrivé à un stade de maturité. Il peut être amélioré à travers les critiques, les observations, les suggestions qui seront faites par les internautes. Mais nous pensons que la base, le substrat est là. Et le soutien que nous voulons, c'est garder notre indépendance financière pour pouvoir continuer à évoluer selon un angle qui nous paraît fondamental. Sans être, on va dire, sous tutelle des éventuels annonceurs ou bien financiers qui pourraient nous apporter leur contribution. Et donc, pour que le site puisse donc s'autofinancer, nous avons fait en sorte qu'il soit à la fois gratuit pour ce qui est des vidéos, mais payant pour ce qui est de la lecture de la bande dessinée ou bien le téléchargement des posters ou bien des autres produits que nous allons au fur et à mesure mettre à la disposition sur le site. Pour que la personne nous apporte son soutien financier, il suffit simplement qu'elle devienne membre du site. Devenir membre du site, c'est s'inscrire. Quand vous êtes inscrit, vous avez un compte et vous avez un mot de passe et désormais, vous pouvez vous connecter. Quand vous êtes connecté, vous avez donc la possibilité de créditer votre compte financier via donc votre carte Visa, en passant par le programme PayPal. Quand on est à l'international, au niveau du Gabon, c'est un autre protocole. Et dès l'instant où vous avez crédité votre compte, vous avez un crédit. Et avec ce crédit, vous pouvez faire vos différents achats qui se résument en fait à la consultation en ligne de la BD, des différentes BD, et aussi au téléchargement des posters. Pour l'instant, il est clair que d'autres produits viendront. Et plus nous aurons de personnes qui vont se connecter et créditer leur compte, plus nous aurons assez d'argent pour financer d'autres projets de bande dessinée. Après la bande dessinée, nous envisageons le dessin animé. Pour les plus jeunes, ceux qui ne savent pas encore lire. Imaginez un peu tous ces contes africains que ben, le monde entier pourrait découvrir soit en français, soit en anglais. Le Roi Lion déjà avait eu un grand succès. Mais on voit bien que la matrice du Roi Lion, c'est l'Afrique. Black Panther récemment vient d'avoir un très grand succès. La matrice est en Afrique. L'Afrique intéresse.
Kirikou.
Voilà.
Succès donc, mondial.
Voilà, vous voyez que les gens veulent en fait que l'Afrique se présente. On nous a tellement présenté.
Tout à fait.
Mais c'était d'autres personnes qui parlaient de nous. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes nous présenter. Et on va se rendre compte qu'effectivement, certains aspects qui nous ont été décrits l'ont été à juste titre. D'autres sont à corriger. Absolument.
Qui sont les artistes de ces bandes dessinées sur votre site?
Ah madame, ce sont de jeunes artistes africains talentueux que vous ne connaissez pas malheureusement.
Donc ils vivent au Gabon ou dans d'autres pays africains?
Alors, comme je suis sur une plateforme internet que j'ai créée, la plateforme BD Ecan, je travaille avec les artistes d'Afrique centrale pour l'instant. Parce que les contes sont des contes d'Afrique centrale. Et donc je veux que le contexte dans lequel ils vont rédiger, illustrer donc les différents proverbes, les contes, soit un contexte d'Afrique centrale.
Donc en fait, ils travaillent sur commande?
Voilà, c'est-à-dire que je suis à Libreville, eux ils sont par exemple à Kinshasa, ou bien ils sont à Brazzaville, ou bien ils sont à Yaoundé, à Douala. Et puis je leur présente un scénario, je monte les personnages, je leur envoie donc par mail le corpus. Et puis eux, ils font des petites planches, et puis je valide ça sur Internet, et puis quand c'est bon, voilà, c'est comme ça que je travaille.
D'accord. Donc, alors, mais est-ce qu'après, la bande dessinée est-elle publiée sous format papier ou...
Ah oui, madame, j'ai présenté la dernière fois à Irénée Dombouet, que je salue au passage, et puis à d'autres amis, la bande dessinée qui a été produite et qui se retrouve d'ailleurs sur, et édité en format papier et qui se retrouve sur le site.
Oui, sur le site, mais sur le site c'est virtuel. Wow. Mais on peut donc la commander sur format
papier. Vous pouvez la commander. D'accord. Et vous aurez la bande dessinée. La première bande dessinée que nous avons donc illustrée, c'est Alumundo Minko. C'est donc un anti-héros, c'est-à-dire un mortel de la région du Nord qui va donc à la conquête de l'immortalité. Il faut comprendre que dans Vote, et là maintenant je rentre dans le corpus donc, des écans, le corpus historico-mythique des écans, dans Vut, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde du Nord, qui est le monde des mortels, plusieurs peuples, et il y a le monde du Sud, un seul peuple, qui est le peuple des immortels. Les immortels ont acquis le secret de l'immortalité, et ils gardent ce secret jalousement. Et les mortels veulent accéder à l'immortalité. Donc c'est souvent un homme du Nord très puissant, qui a l'ambition d'accéder à l'immortalité. Et pour ça, il doit affronter les hommes d'Engon. Et à chaque fois, il est défait. Il est défait, pourquoi? Parce que le Nord, en fait, symbolise la chair, qui veut donc, justement, accéder à l'immortalité. Et le Sud symbolise l'esprit, qui a déjà l'immortalité. Et donc, le combat qu'il y a entre les hommes du Nord et puis les hommes du Sud, c'est le combat de l'être humain, qui, à travers les jeûnes, à travers des restrictions, physique, veut accéder à sa part divine. Mais il a un corps, lui, qui veut toujours se laisser aller à ses appétits épicuriens. Et donc, ces combats que vous voyez entre les hommes du Nord et les hommes du Sud renvoient en fait à la quête identitaire que l'homme a lorsqu'il cherche sa partie divine. Donc, on n'explique pas ça de façon philosophique, c'est à travers des récits, c'est à travers des contes imagés, à travers l'allégorie, en fait, que ces questions très fondamentales et philosophiques étaient expliquées aux enfants. Donc c'est ce que nous faisons en même temps aujourd'hui. Sauf que nous avons changé d'outil. Ce n'est plus la parole seulement, c'est maintenant le texte, c'est l'image, c'est le son.
Alors voilà. Combien de titres au catalogue?
Madame, aujourd'hui nous avons trois titres. Nous avons Alum Dominico, acte 1, l'affront. Alum Dominico, acte 2, la riposte. Et Endomé la Maison, ça c'est maintenant un autre récit. Endomé la Maison, la provocation. Donc ces différentes bandes dessinées mettent à peu près 3 mois pour être réalisées dès que nous avons les financements. 3 mois. En 3 mois, on donne le scénario, on a le storyboard, le dessinateur travaille, et à l'instant où je lui ai donné de l'argent. Et ensuite après, l'édition peut suivre. Donc dans une année, si on a des financements, avec un seul dessinateur, nous pouvons réaliser 2 bandes dessinées. Si nous en avons 4, c'est 4 bandes dessinées. J'ai pour ambition, madame, si je ne meurs pas avant que les ancêtres ne m'appellent. Mais j'ai pour ambition de réaliser 50 bandes dessinées de Voroyong. Maintenant, il est clair que d'autres bandes dessinées, d'autres peuples africains peuvent être illustrés. Je pourrais faire illustrer une bande dessinée sur Sundiata Keïta ou sur Samori Touré. Voilà. Je peux également faire une bande dessinée sur Anzinga, même si on a déjà le film, sur Thomas Sankara.
La princesse Edenga.
Voilà, tout à fait.
Donc,
toutes
donc
les histoires africaines.
Donc même des histoires politiques.
Absolument,
Thomas Sankara,
oui, voilà.
Vous vous arrêtez pas seulement à la mythologie antique.
Mmh. Non, la mythologie vous antique, c'est surtout pour montrer en fait que nous avions des valeurs de la civilisation.
Fait, oui.
Et ensuite, maintenant, nous avons des héros modernes. Mmh. Eux aussi, ils méritent d'être des éléments d'inspiration pour la jeunesse. La vie de Thomas Sankara est une vie extraordinaire, surtout qu'elle finit tragiquement. Mmh. Et donc la tragédie, c'est aussi un peu ça. Elle percute davantage les consciences que lorsque l'on meurt à 94 ans. Hein, je n'ai rien contre ceux qui meurent à 94 ans. Mais disons que quand on meurt dans la tragédie, eh bien, ça bouleverse. Et ça reste dans les esprits. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Amical Cabral. Voici des personnes dont l'histoire mérite d'être connue. Et donc une bande dessinée.
Et qui avait un vrai projet d'Afrique
exactement. Réunifiée. Voilà. Donc en plus des aspects donc, historiques, nous pouvons aussi réaliser des fictions. Des fictions. D'accord, où nous projetons donc certains aspects. Mais un point sur lequel j'aimerais vraiment travailler, et là je pense à tous ces africanistes, égyptologues, c'est la spiritualité africaine avec Osiris.
Mmh.
Voilà. Que les Grecs appellent Osiris, mais que nous on appelle Oshiré.
Oshiré.
Voilà, W-S-R. Mmh. Si on s'en tient à l'alphabet consonique, les Égyptiens n'avaient pas de voyelles. La voile se prononçait lorsque l'on parlait. Quand on écrivait, c'était les consonnes. Donc, Osiris, c'est W-S-R, donc Oshiré. Donc, il serait intéressant que les Africains sachent qui était Osiré. Et nous parlons là des choses qui ont existé il y a de cela 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans. Et voilà. Ce sont des points à travers une bande dessinée que nous pouvons présenter. Donc, madame, vous avez voulu savoir qu'est-ce que c'était que le projet Millennium Vote. Eh bien, je vous ai dit que pour le troisième millénaire, nous voulons élever l'homme. Et on élève l'homme lorsqu'on lui apporte la vérité. Voilà. Une vérité qui n'est pas clivante, qui n'est pas conflictuelle. Mais une vérité où, lorsqu'il a accès, lorsqu'il accède à l'information, eh bien, il change sa nature. Il se regarde autrement. Il regarde l'autre comme un frère et non pas comme un ennemi. Et il n'a qu'une chose, c'est vivre en paix avec son semblable. Il va faire son semblable, permet d'avancer ensemble. C'est ça la spiritualité que nous voulons présenter au-delà même des aspects de mythes, de contes. Car ce qu'on veut, c'est une planète où les hommes s'entendent. Car la planète est suffisamment riche pour que nous puissions partager cette richesse à l'ensemble de l'humanité. Et c'est la mission que l'Afrique a, madame. Quand je vous parlais du rôle que l'Afrique aura à jouer.
Ça fait du bien de l'entendre, parce qu'actuellement, c'est tellement un continent tellement déchiré, tellement pillé, tellement maltraité. Et... Alors, bon, il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi, mais bon, celui-là, quand même, particulièrement, et c'est pas pour rien, je pense qu'il intrigue, et ce qu'on vient d'entendre, Guylaine, je pense que ça peut nous éclairer aussi sur pourquoi il y a cette fébrilité d'aller sur ce continent et de s'abreuver, et de se nourrir et de s'approprier les choses, enfin vraiment toutes vos richesses, quoi.
Les relations doivent changer entre l'Afrique et l'Europe. Nous, quand je dis l'Europe, je vois, allez, l'Occident. C'est la vision occidentale. Il y a un modèle occidental qui est présenté au monde. Ce modèle est erroné. Il est erroné parce qu'il est géopolitique. Il sert l'intérêt d'une élite.
Tout
une
à fait.
Élite politique et financière qui souhaite donc garder dans l'obscurité les populations, et dans cette opacité, l'élite peut donc s'enrichir et gaspiller de l'argent, faire des choses superflues, tout en constatant pourtant que des gens meurent de faim, et non même pas le minimum. C'est une posture intellectuelle que nous comprenons, mais que nous ne partageons pas et que nous rejetons. Il faut donc apporter la lumière. Il faut donc dire aux gens, mais écoutez, la richesse que la terre a permet de vivre en harmonie avec les animaux, avec la nature, avec les hommes. Mais cette richesse doit être redistribuée équitablement. Et cela est possible. Cela est possible. Mais pour que ça soit possible, il faut que nous ayons de l'humanité. Et cette humanité, elle vient par la spiritualité. La spiritualité, c'est de croire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et que si nous cherchons l'harmonie, il nous faut pratiquer l'amour. Et c'est cela que l'on retrouve dans les principe de la maths. La maths, c'est, comme vous le savez...
Alors moi, je voudrais confirmer simplement, en tant que citoyenne, étant née officiellement dans le monde occidental, mais étant née aussi dans le sud, au bord de la Méditerranée, je peux confirmer que, justement, notre histoire, nos valeurs, nos richesses ont été complètement spoliées. Je parlerai, par exemple, du du protestantisme, je parlerai du catharisme, je parlerai de la langue qu'on nous a empêchée, parce que c'est des discussions que j'ai souvent avec mes amis africains. Nous aussi, on nous a imposé une langue. Je pense souvent à nos compatriotes alsaciens ou lorrains qui ont vécu ces périodes où dans une même école, pendant quelques années, il était interdit de parler le français, puis et le patois, et puis après, il était interdit de parler l'allemand. Enfin, et je crois que nous aussi, nous avons été beaucoup... Nous n'en avons plus conscience parce qu'on est parti dans cette espèce d'ivresse de consommation avec ce que dit notre invité de la pauvreté que nous retrouvons, etc. Mais franchement, nous aussi, on a été pillés quelque part. Et ça fait chaud au cœur de savoir que ceux qui continuent à être pillés quelque part sont peut-être ceux qui vont se lever en disant maintenant ça suffit, notre histoire elle est là, et au nom de l'amour universel, voilà ce qu'on peut essayer de retirer de tout ça. Donc merci.
Quel est votre regard, Jeffrey Ngomo, sur la crise migratoire internationale aujourd'hui? On va se réunir le samedi prochain à Montpellier pour se battre pour ces migrants.
Madame, cette crise migratoire m'arrache un rictus. Ouais, j'ai presque envie de sourire et en même temps je suis crispé. Je suis crispé parce que voilà un continent qui est extrêmement riche. Et depuis qu'il a été créé, ce continent, il est riche. C'est incontestable. Mais les populations qui y sont pauvres. Tiens, on peut se dire, mais si elles sont pauvres, c'est parce que ces populations sont bêtes. Elles ne sont pas assez intelligentes pour produire donc de la valeur ajoutée à partir de leur richesse. Ça, c'est la première analyse qu'on peut faire. Et donc, comme elles sont pauvres et qu'elles ne peuvent rien produire de richesse pourtant que leur continent a, eh bien, ces populations pauvres vont venir en Europe qui, elles, est riche et qui, elle, est intelligente et qui, elle, produit des richesses. Voilà un peu la vision qui est projetée par les médias. Une Afrique pauvre qui vient chercher la richesse en Europe. Maintenant, quelle est la réalité? La réalité est tout autre. La réalité, c'est que l'Europe, en réalité, n'a pas beaucoup de richesses, n'a pas beaucoup de ressources naturelles, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Voilà. Et qu'a fait cette Europe? Et là, je m'adresse particulièrement à l'Europe gouvernante, plus précisément la France, un pays dans lequel je suis. Et je remercie beaucoup les autorités françaises qui m'ont donné le visa. Mais j'ai quand même néanmoins critiqué certaine politique que nous n'acceptons pas et qui produit l'immigration. Alors, vous avez donc dans les pays africains, dans les 14 pays francophones, des dictateurs ou des pseudo-démocrates qui sont soutenus par la France et qui vont exactement maintenir les contrats léonins que la France a fait signer par les chefs d'État africains, ceux qui ont remplacé les vrais leaders. Voilà. Sylvanus Olympio n'aurait jamais signé ces contrats. On l'a assassiné. Il y a des mal à faire. Et je peux continuer avec Ruben Umiobe, Patrice Lumumba. Voici ces chefs d'État qui n'étaient pas disposés à céder quoi que ce soit à la France, mais auraient été disposés, par contre, à discuter. Et quand la France ne veut pas discuter, eh bien, elle les a éliminés. Elle a mis des potentats. Elle a mis des personnes qui vont faire exactement ce qu'elle veut. Que font ces personnes? Mais elles détournent simplement l'argent. Le franc CFA étant là pour les aider. Et donc, dès l'instant où cet argent est détourné et qui ne sert pas aux populations, que font les populations? Elles veulent se défaire de ces dirigeants. Et que fait la France? À travers coup d'État ou bien à travers ses missions militaires, elle maintient ces régimes. Et quand ces régimes sont maintenus, eh bien, ils continuent leur action de kleptomanie. Donc nous en sommes à une situation où les richesses sont là, mais elles servent davantage la France et puis l'élite corrompue qui est au pouvoir. Et les masses populaires, qui maintenant se retrouvent dans une situation désespérée, qu'est-ce qu'elles font? Elles décident de venir donc en Occident. Mais comme la richesse quitte notre Afrique pour venir donc en Europe, précisément en France, eh bien on n'a qu'à venir justement chercher cette richesse en France, d'où le phénomène donc d'immigration. Si vous voulez régler la question d'immigration, écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a la vérité. Vous réglez la question à la base. Laissez les populations africaines élire leurs chefs d'État. Laissez les chefs d'État compétents mettre en place des gouvernements qui auront la capacité de renégocier des accords et puis de voir comment est-ce qu'on peut effectivement aider la France si elle a besoin de nos ressources matérielles, de nos ressources naturelles. Oui, l'uranium aujourd'hui, qui permet donc aux Français de se chauffer et puis de vivre avec la lumière. Mais cet uranium vient d'où? Il vient quand même pas de la Franche-Comté. Il vient du Niger, il vient du Gabon. Cet uranium, il est payé à combien? Il est payé au prix que veut bien prendre la France, quand ce n'est pas gratuit. Le pétrole, il ne vient quand même pas du Languedoc-Roussillon. Le pétrole, il ne vient pas de Norvège. Il vient du Congo, il vient du Gabon. Il vient donc des pays qui sont sous tutelle française. Et je peux continuer comme ça sur l'ensemble des richesses qui font que la France a un train de vie et que ce train de vie, nous aurons pu l'avoir si nous avions des gouvernements compétents. Mais c'est même compétent, la France n'en veut pas. Et donc, elle préfère avoir, c'est donc ce sous-préfet qui font la politique qu'elle veut. Mais malheureusement, cette politique qu'elle veut génère la pauvreté. Cette pauvreté, la jeune génération n'en veut pas. Eh bien, elle est prête à braver la Méditerranée pour venir donc manger un peu de cette richesse qui se retrouve aujourd'hui en France. Voilà, madame, justement, mon approche sur la question de la crise migratoire. Et c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui a la meilleure analyse et qui a le discours de vérité que je relais maintenant sur ces ondes.
Et il y a même des gens, enfin, il y a notamment une femme qui est venue, qui a eu dans une spéciale à l'ONU, qui elle-même promeut cette idée que si on aide les gens là-bas sur place à faire ce qu'ils peuvent faire, si on leur permet de le faire, ils n'auront plus besoin de venir chez nous. Une famille avec, elle avait donné le prix, c'était ahurissant. C'était même pas le prix que nous coûtait un migrant dans une année, je crois. Et on pouvait faire vivre une famille pendant. Mais elle dit qu'elle a beaucoup de mal à se faire entendre. C'est une femme.
Oui, madame, elle n'aura pas le soutien des médias classiques.
Non, bien sûr
que
non.
Qui, eux, doivent relayer l'autre discours.
Tout à fait.
Voilà, le discours de pauvreté intellectuelle, donc qui génère la pauvreté matérielle. Et aujourd'hui, pour fuir cette pauvreté, on vient en Occident. Le vrai discours, c'est même pas que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin qu'on nous laisse tranquille.
Surtout.
Nous avons
surtout,
besoin qu'on nous laisse élire nos présidents. Nous avons besoin que ces présidents-là constituent des gouvernements. Les gouvernements travaillent pour le bien de leur peuple. S'ils sont compétents, eh bien, ils seront reconduits. S'ils ne le sont pas, ils seront dégagés, tout simplement.
Absolument.
Mais vous comprenez l'impact que ça va avoir sur ceux qui avaient l'habitude de traiter avec ces gouvernements corrompus et l'intérêt que tous trouvaient. Vous voyez l'impact que ça va avoir. Donc, si on veut régler la question de l'immigration, il faut aller à la source, madame. Voilà. Et la source, c'est qu'il faut vraiment que désormais, les Africains prennent totalement en main leur destin. La RDC, je termine là. La RDC, madame, qui va connaître ses élections présidentielles en décembre. C'est le pays le plus riche de l'Afrique.
Tout à fait.
On peut même dire que c'est le pays le plus riche du monde. Si on vous compte le scandale géologique que c'est, vous avez du mal à penser que ce pays peut être pauvre. Et pourtant, la RDC compte beaucoup de pauvres. C'est paradoxal. Eh bien, il faut qu'on ait un parti sur le Mumba, ressuscité, qu'on le laisse vivre, gérer la RDC. Et vous verrez.
Le message est lancé. Merci Geoffrey Ongomo.
Merci.
Marie-Claude, je vous laisse conclure cette émission.
Voilà, donc on est reparti très loin dans l'histoire pour revenir dans les technologies futures. Donc je vais vous rappeler quand même peut-être le nom du site avec les 3W.labdekan, lab de Caen. .com, si vous voulez aller un petit peu vous perdre là-dessus et puis peut-être consulter les bandes dessinées. Donc
acheter surtout.
Et acheter, les acheter, et puis voilà, et prendre des abonnements maintenant à la façon moderne. Les gamins, ils savent très bien faire ça, et comme ça s'adresse aussi beaucoup à eux. Alors, on va finir sur, notre entretien, la teneur de notre entretien, on a eu donc une énorme ouverture sur le monde moderne, et donc le monde aussi de l'Afrique. Et on va finir avec Ousmane Touré, qui est mauritanien et qui, avec sa très belle voix, nous interprète Avenue du Monde. C'est tiré de l'album du même nom, Avenue du Monde. Et bon, au revoir à tous et à très bientôt pour reparler donc de cette Afrique multiple et dans tous ses états. Et merci à notre invité et à vraiment sa verve et sa conviction et sa passion qui nous ont vraiment passionnés, Guylaine.
Absolument. À très bientôt, Marie-Claude.
À bientôt.
Au revoir.
Je suis venu au monde, avenue du monde. On m'a dit New Eltidjam, et j'ai peuplé mon âme. C'est la terre qui me nourrit, c'est l'eau qui fait la vie, c'est l'air que je respire et le feu qui m'inspire. J'ai pas de terre qui m'appartienne, mais la terre entière est à moi. Parce que ma maison est la tienne, parce que mon cœur ne ferme pas. Tu peux passer par là, où l'horizon s'étend à des millions d'autres gens. J'ai marché dans le monde, avenue du monde. J'entendais New Eltidjam et j'ai peuplé mon âme. C'est le voyage, la richesse, c'est la trace que tu laisses, la sourire que tu emportes de ceux qui t'ouvrent la porte. J'ai pas de terre qui m'appartienne, mais la terre entière est à moi, parce que ma maison est la tienne, parce que mon cœur ne ferme pas. Tu peux passer par là où les routes reviennent, là où commencent les tiennes. Ma place est dans le monde, avenue du monde, pour chanter Nwelti Diam. Et j'ai peuplé mon âme, c'est l'enfant que tu aimes, le bonheur que l'on sème. On sème, on continue pour un nouveau venu. J'ai pas de terre qui m'appartienne, mais la terre entière est à moi, parce que ma maison est la tienne, parce que mon cœur ne ferme pas. J'ai pas de terre qui m'appartienne, mais la terre entière est à moi, parce que ma maison est la tienne, parce que mon cœur ne ferme pas. J'ai pas de terre qui m'appartienne, mais la terre entière est à moi, parce que ma maison est la tienne, parce que mon cœur ne ferme pas. Tu peux passer par là. J'ai une place dans le monde, avenue du monde.